Bien, merci pour votre invitation. Merci aussi de m'avoir finalement amené à revenir sur des questions que j'ai un peu laissées de côté et sur lesquelles j'ai autrefois beaucoup travaillé. Et je m'excuse par avance. Je sais que Paul Bouffarti, qui me le rappelait tout à l'heure, aura déjà sans doute entendu quelques aspects des points que je développerai ici. Alors, je commencerai par deux témoignages, bref, pris à des distances, des chronologies différentes. Première, c'est le témoignage d'un syndicaliste rouennais en 1935. Le docker, dit-il, veut avoir sa liberté absolue et c'est comme cela qu'il manifeste sa haine de classe. Il me plaît de travailler seulement 2 jours par semaine. Dans les années 90, un autre docker, également syndicaliste, mais on reviendra sur les liens entre syndicalisme et caractéristiques et identité professionnelle, marseillais cette fois, expliquait à son tour et nuançait d'une certaine façon ce que disait son prédécesseur. Donc je le cite. « On ne peut pas se considérer comme un homme libre quand on est tenu de descendre tous les matins à l'embauche chercher une journée problématique pour être licencié le soir. » Mais il ajoutait « Et pourtant, rien à faire. Cette idée de liberté, obscurément, elle demeure. » Alors, revenons un petit peu sur le cadre dans lequel s'effectue le travail des dockers. Et j'ajoute tout de suite, comme ça a été précisé, que je suis historien et que je n'irai guère au-delà du XXe siècle. C'est-à-dire que j'irai guère, en fait, au-delà de 1992, qui voit le système de l'intermittence être profondément modifié dans les ports, mais on y reviendra dans la discussion, si vous le voulez. Alors d'abord, le port. Alors, la définition du territoire, là, est indissociable de considérations juridiques et sociales. Et là, je renvoie au Code civil, article 538, qui stipule que les ports sont des dépendances du domaine public, ce qui en fait des lieux dévolus aux services publics, que ces services publics soient d'ordre administratif ou à caractère industriel et commercial, c'est ces activités qui nous intéressent ici. La jurisprudence du Conseil d'État tient plus précisément ces manutentions, je cite encore, pour l'un des éléments du service public à l'exécution duquel le domaine public du port est normalement destiné. Donc, ce rapport à l'espace public, au domaine public et au service public est important. Les dockers, maintenant. Étymologiquement, le vocable d'origine anglaise s'applique aux travailleurs des docks. Mais qu'est-ce que les docks ? Initialement, ce sont les bassins artificiels creusés dans les ports, et puis on y a ajouté ensuite les magasins et entrepôts qui les bordaient. Jusqu'au début du XXe siècle, le terme de docker n'appartient pas au vocabulaire portuaire. Selon la période, les lieux, d'autres expressions se bousculent aux lisières du français et des jargons de métier. Les plus répandus, après l'approximatif mais bien significatif journalier, renvoient à l'activité. On parle, selon les lieux, de portefaix, de brouettier, de débardeur, d'arrimeur, de chargeur, de déchargeur, et j'en passe. Ou prennent en compte les marchandises manutentionnées. On parlera de charbonnier, de piquetier, de morutier, de primeuriste, et là encore, la liste ne s'arrête pas là. Commode, le classement des ouvriers des ports parmi les gens de bras simplifie à l'extrême une réalité complexe. Arrimer les marchandises en prévision d'éventuelles tempêtes, guider le mouvement des fûts, maîtriser le chargement ou le déchargement d'un gros colis, pour ne rien dire de l'économie des gestes et des efforts, ne sont pas des actes à la portée du premier venu. Reste que, aux grandes aires de l'ère du muscle, on a pu écrire que le principal savoir-faire des dockers résidait dans leur faculté d'adaptation aux incertitudes d'une activité réglée sur les fluctuations météorologiques et commerciales de la navigation maritime. J'en viens à l'intermittence. L'intermittence, avec ses embauches fractionnées, dans le cas des ports, par demi-journée, voire par heure, découle du double souci qu'ont les entreprises de manutention de limiter l'effectif de leur personnel permanent et de garantir la rapidité des opérations par le recours à une main-d'œuvre de réserve immédiatement mobilisable. Il y va de la réputation des ports. L'histoire sociale de ces ports se résume de ce point de vue dans l'alternance de phases de travail dites libres ou de travail dit réglé. Le travail libre, compris dans le sens de l'ouverture des quais à quiconque s'y présente, s'impose dans la seconde moitié du XIXe siècle. Hormis une minorité de spécialistes, dits classés, attitrés ou abonnés de grandes entreprises, la plus forte concurrence règne entre les travailleurs, phénomène qu'exagèrent les usages et valeurs d'un monde du négoce qui imprègne toute la société portuaire, experte en marchandage de toutes sortes. Le contremaître est ici le personnage central de la partie qui se joue à l'embauche. Lié à un entrepreneur d'ouvrage, le manutentionnaire, il s'engage pour un prix forfaitaire à recruter et diriger les hommes nécessaires aux manutentions. Le pouvoir qu'il détient sur les ouvriers incline aux abus du favoritisme, du clientélisme, du clanisme, et là encore on pourrait continuer. Les témoignages abondent sur ces chefs, par ailleurs tenanciers de café, transformés en bureaux d'embauche et de paye, et dans lesquels mieux vaut avoir ses habitudes. En tout état de cause, les procédures d'embauche revêtent le caractère humiliant d'un marché aux esclaves. Lorsque la voix ne suffit pas à capter le regard du recruteur, il faut jouer des coudes pour atteindre le premier rang. Tous les postes, en effet, ne se valent pas. Les plus faibles l'apprennent à leurs dépens. La maîtrise, ici, n'est pas seule en cause. Sur les quais, la loi de la jungle a tôt fait de creuser les écarts, d'exacerber les inégalités au sein d'un impitoyable système d'exploitation en cascade qui se prolongera très tard, après la loi de 47 que j'évoquerai tout à l'heure. Il était fréquent de rencontrer sur les quais des dockers professionnels qui, comme ils les disaient eux-mêmes, faisaient travailler leurs cartes, c'est-à-dire se faisaient embaucher, remettaient leurs cartes à quelqu'un qui travaillait pour eux, moyennant le versement d'une commission. D'emblée, pour exister, le syndicalisme portuaire a dû placer très haut la barre de ses ambitions. D'une, disputer au patronat et à ses contremaîtres le contrôle et l'organisation du marché du travail. Deux, et à cette fin, discipliner la cohue des journaliers. Au terme d'une histoire mouvementée, ils parviennent dans les plus grands ports à instaurer un monopole syndical d'embauche dans l'entre-deux-guerres. À la Libération, la loi du 6 septembre 1947 que j'évoquais tout à l'heure consacre et généralise ces conquêtes locales. Le texte prévoit l'existence de bureaux d'embauche paritaires, reporte sur les employeurs le coût social des fluctuations d'activité par l'institution d'indemnités de garantie en cas de chômage des titulaires d'une carte professionnelle. Par là, la loi clôt aussi le long processus de professionnalisation des dockers et dissocie l'intermittence de la précarité par l'institution de ce qu'un haut fonctionnaire décrira comme, je le cite, « un curieux système de libre entreprise avec main-d'œuvre obligatoire ». Ce cadre fixé, tout le reste est affaire d'accords nationaux et locaux, plus ou moins bien articulés avec des us et coutumes qu'il importe de considérer à leurs différents échelons d'application. Premier échelon, élémentaire, essentiel, celui de l'équipe. Constituée ou reconstituée pour chaque vacation sur des chantiers mouvants par définition, les bateaux, là s'éprouvent les pratiques restrictives, limitation du poids des palanquets, refus de charger, de changer de navire, voire de cale en cours de vacation. Inscrites dans les conventions locales ou les coutumes plus ou moins tolérées, pipes, volées, grappillages, on y reviendra si vous voulez, dont l'assimilation, sinon l'incorporation, concourt au processus de consolidation du groupe. C'est également au niveau de l'équipe que s'effectuent les contrôles de cartes professionnelles ou le règlement des litiges ordinaires par lesquels se vérifie le contre-pouvoir syndical. Mais il y a plus. Ainsi que le signale cet autre synonyme d'équipe, la main, qui met l'accent sur les solidarités à l'œuvre. Acteurs et observateurs s'accordent sur l'indispensable cohésion des coéquipiers affectés à des tâches à la fois pénibles et dangereuses. Les périls, qu'accroît l'exigence de rendement, réclame une attention permanente et collective. Par suite, les opérations s'organisent-elles de préférence au sein d'équipes stables, dont les membres ont appris à coordonner leurs gestes, à évaluer leurs compétences, à prévoir leurs réactions, en bref, à se faire confiance. C'est à l'échelon de ce groupe naturel, pour reprendre la terminologie d'Elton Mayo, que circulent les informations, se partagent la nourriture ou les boissons, que s'organise surtout le travail. Collectif de compagnons dans tous les sens du terme, l'équipe est encore le cadre d'élaboration de stratégies défensives autour de normes telles que le courage, l'endurance, la force. Au-delà de l'équipe, le port est le second échelon des solidarités et territoires ouvriers, de structuration syndicale, de négociation des conventions exclusives d'accords d'entreprise. Il faudra peut-être y revenir. Et là, un témoignage. Témoignage d'un docker de Rouen des années 70. Je le cite. « Le matin, quand j'arrive sur le quai, je regarde à gauche. Ah, un bateau de grain. Deux bateaux de grain, tiens. Il y a de la poussière, il travaille. Mais on a tout plein de repères comme ça. La grue, on voit dans quel sens sont les flèches. S'il y a une flèche à l'opposé, on dit, tiens, oh, il y a une équipe là, sous la flèche de la grue. Et il ne faut pas. Bon, il y a plein de repères comme ça. Nous, je te dis, le matin, tu regardes. Tiens, les contremaîtres sont partis. Les rouleaux de papier, là-bas, tiens, il y a un bateau de bois. En deux minutes, on juge. Tout ce qu'on voit, tout ce que nos yeux voient, on juge le port. Ça, c'est l'habitude. Les odeurs aussi, par moments. Le bateau de cacao, ça puait à 50 km à la ronde. Ça, et puis les petits moustiques qui étaient dans le copra. Oh, dit, quand ils ouvraient la cale, il y en avait des millions de petites bêtes qui s'en allaient. Tiens, il doit y avoir un bateau de copra dans le port. J'arrête la citation. Pour tous les dockers, le site s'incarne aussi et d'abord dans le centre d'embauche, lieu de concrétisation de la force syndicale, d'inculcation de ces rituels à travers le rassemblement de centaines, voire pour les plus grands ports, de milliers d'hommes dans des halls, qui donnent à voir une à deux fois par jour la puissance du nombre. C'est là aussi que s'effectuent les prises de parole, que se diffusent les consignes et que s'exerce l'autorité des délégués, qu'il s'agisse du respect des procédures, de la répartition équitable des tâches ou de la composition des équipes. Dans les profondeurs, déplorait le président de l'Union patronale nationale, l'ouvrier docker n'est au service que de l'entité port, notion abstraite, anonyme, sans personnalité juridique, autant dire qu'il n'a pas de patron. Et évidemment, il le déplorait. Ce que corrobore en 1967 un haut fonctionnaire pour lequel les dockers sont, je le cite, « sous la complète emprise du syndicat qui est en fait le seul organisme à caractère permanent que l'ouvrier connaît dans sa profession. » Les dockers en conviennent, qui, convaincus d'être les derniers ouvriers libres, réitèrent leur rejet de la subordination directe qu'entraînerait le basculement dans le droit commun salarial. Le syndicalisme, on l'a un peu croisé, mais revenons. Rappelé et éprouvé à longueur de conflit, l'antagonisme capital-travail participe d'un vécu quotidien. Entre patron et ouvrier, il s'agit toujours, dit un docker, de gagner l'un sur l'autre. C'est un jeu, abrège et nuance un syndicaliste. Il faut insister sur la dimension normative de l'intervention syndicale. Ainsi apprend-on très vite sur les quais, je cite, qu'un vrai docker, c'est un docker syndiqué. La réalité et la longévité des succès remportés convainquent les ouvriers de l'efficacité d'une stricte discipline collective. Ainsi, est-il courant de refuser de faire équipe avec un non-syndiqué ou avec l'adhérent d'une organisation rivale s'il en existe ? Rallier le bon syndicat ne saurait toutefois suffire à garantir l'indispensable homogénéité du groupe. Des sanctions pécuniaires frappent ceux qui ne suivent pas les consignes. En place depuis l'entre-deux-guerres, le modèle havré de régime disciplinaire ne laisse guère deviner l'orientation libertaire de ses initiateurs. Au pire, le syndicat ne recule pas devant l'interdiction d'embauche des ouvriers en retard de cotisation ou pointer absence en motif valable aux assemblées générales mensuelles. Les contremaîtres eux-mêmes, reconnus coupables d'avoir constitué des équipes incomplètes, subissent un sort identique, cependant que les salaires correspondant aux postes non pourvus sont reversés à une caisse de solidarité. Il ne s'ensuit pas que le syndicat soit l'unique cadre de sociabilité des dockers, bien sûr. Alors même que la vie familiale pâtit des heures supplémentaires et du doublage des journées par des vacations nocturnes, les ouvriers passent une partie non négligeable de leur temps de non-travail en compagnie de leurs camarades. L'irrégularité des embauches et l'obligation de se présenter à chacune d'elles entraînent de longues heures d'attente dans les parages des quais, en premier lieu dans les cafés qui y prolifèrent. On touche là à cette sociabilité de café qui n'est pas sans rapport avec l'alcoolisme, ce fléau portuaire ancré dans les équipes au sein desquelles refuser de boire équivaut à s'exclure du groupe. Où l'excès ne vaut condamnation qu'en tant que vice solitaire. Sur la durée pourtant, l'antagonisme ne suffit pas à rendre compte des relations professionnelles portuaires. Sans revenir sur la réalité et la longévité de pratiques syndicales contractuelles et paritaires quasi institutionnalisées, le rapport entre dockers et manutentionnaires, comprenez le patronat, ne va pas sans compréhension, sinon connivence, comme il se doit entre gens de la partie, auxquels il arrive, dans le contexte d'une rude concurrence entre ports, de se retrouver autour de la promotion du site. N'imaginons pas, en effet, les travailleurs indifférents aux efforts de captation de trafic, dont les variations dictent le niveau des embauches. Contenu, sinon éliminé au niveau du site, la concurrence reprend vite ses droits dès que, au-delà du cadre local, la fraternité coopérative se fait plus abstraite. Face aux rivaux dont la proximité augmente la dangerosité, l'esprit de clocher vire à la conscience de place. Les conventions locales en prennent acte qui, l'autonomie syndicale aidant, débouche sur des arrangements ignorés de la fédération. Logique de place et conscience de classe paraissent davantage complémentaires quand les dockers s'efforcent, à cet échelon du site, d'agréger à eux l'ensemble des travailleurs du port et de ses alentours. Un syndicaliste de Dunkerque explique « Nous tiendrons l'avenir en tenant tous les travaux. » De fait, son syndicat, dans les années 70, s'ouvrira aux contremaîtres, aux conducteurs d'engins, aux menuisiers, aux magasiniers, aux mécasiniers et même aux portiqueurs d'Usinor. Ailleurs, il est question des artisans bateliers, des salariés du mariage et des conserveries de poissons, de ceux des manutentions ferroviaires ou aéroportuaires et du nettoyage. Dans les années 70, les plus audacieux envisagent un temps d'aller à la conquête des manutentions des ports secs et des plateformes multimodales de l'intérieur. Certaines pratiques relèvent de références et hiérarchies contradictoires avec les valeurs syndicalistes. Ainsi, le tour de rôle à l'embauche, censé régulariser l'embauche des uns et des autres, salué comme l'expression la plus achevée de fraternité et d'unité, tarde ou échoue à se mettre en place. Sa réalisation menace, il est vrai, les liens d'interconnaissance qui cimentent les bordées et dresse une barrière invisible mais efficace entre les habitués et le tout venant de ces ouvriers en quête de travail. Motivé par l'appât du gain que flétrissent les militants, la course à la tartine, comprenez au rendement, prend des allures de désaveu public lorsque les adhérents passent outre les normes syndicales, y compris en matière de sécurité. Au risque aussi d'ébranler les solidarités premières quand le désir d'accaparer les chantiers les moins dangereux ou pénibles, et si possible les mieux rémunérés, fait rejouer des hiérarchies latentes construites sur d'immuables critères de domination, l'origine, l'âge, sinon le sexe, il faudra y revenir peut-être. Sans doute y a-t-il plus qu'une boutade dans la remarque de ce secrétaire du syndicat de Calais notant en 1974 qu'il a plus de mal à combattre sans ouvriers que le patronat. Un syndicaliste rouennais confirme la relative extériorité des délégués dont il précise que, je le cite, « s'ils étaient là pour surveiller les patrons, ils étaient aussi là pour surveiller certains dockers. Répartis dans les différents chantiers, les délégués demeurent certes au contact des ouvriers dont ils partagent les conditions de vie et de travail. Pourtant, accaparés par le règlement des litiges qui constamment surgissent, plus de 1600 par an au Havre en 1978, nommés dans divers comités et commissions, les membres d'un conseil syndical appartiennent déjà à d'autres réseaux que celui des syndiqués ordinaires. La césure principale intervient, là comme ailleurs, avec l'accès au mandat de permanent. Hormis les grands ports, où le nombre de ces derniers avoisine la dizaine, le statut de permanent intéresse au premier chef les secrétaires et, le cas échéant, leur adjoint. Si la procédure de sélection des dirigeants laisse deviner l'influence de considérations extra-corporatives, affiliation partisane, en clair au PCF, celle-ci n'est ni systématique ni exclusive d'autres affinités, plus difficiles à cerner, sauf situation de crise ouverte. Mais nous glissons là, déjà, des sociabilités ouvrières aux sociabilités militantes, autre domaine que nous avons traité ailleurs. Envisager la résistance acharnée à la réforme votée en 1992, celle qui mettra fin à ce système d'intermittence régulée, cette résistance ne peut pas évidemment être constatée du seul point de vue de la défense des sociabilités professionnelles. L'approche par cet aspect de la question n'offre pas moins un éclairage précieux à la compréhension des enjeux identitaires du conflit d'alors. Au vrai, les initiateurs du nouveau système voté ne cachaient pas leur intention de bouleverser le cadre d'exercice d'une profession qu'il importait à leurs yeux de banaliser par l'entrée dans le droit commun salarial et son principe majeur, la subordination. L'évolution profonde entraînée par la révolution des conteneurs, la mécanisation et l'informatisation de la manutention avait certes préparé le terrain, sapant par la désagrégation des équipes, le cœur de la sociabilité docker. À ce jour, pourtant, et là, je vais jusqu'à nos jours, force est de constater qu'en dépit du traumatisme subi par la défaite, une défaite réelle, et la réduction drastique du nombre des dockers dans les ports, les syndicats, toujours structurés autour du site et jamais par entreprise, n'ont guère perdu de leur influence au sein de la profession, et celle-ci au cœur de la vie sociale des ports. Je vous remercie.
Donc, si vous avez des questions pour Michel Pigeonnet, on va faire comme tout à l'heure, deux petites questions. Alors, Ginette, bon, j'y vais.
Oui, je dis mon nom, Ginette Francequin, j'habite Gennevilliers, et vous n'avez pas cité le port de Gennevilliers. Donc je vais demander, comme je sais que vous êtes venu souvent à l'université populaire de cette ville, où je vous ai déjà entendu, je me demandais s'il y avait eu des études sur le port de Gennevilliers.
Sur le port lui-même, non. Alors je les ai croisés dans les archives. Alors, après on reviendra, si vous voulez, sur les hiérarchies entre dockers. Pour les vrais dockers, Gennevilliers, c'est des dockers d'eau douce. Ceci étant, ils bénéficiaient jusqu'en 92 du même système. Mais il y a des hiérarchies. Mais à ma connaissance, je ne connais pas de travaux.
Sur lifting, la logistique, parce que dans le port, il y a une grande école de logistique. Moi, j'étais conseillère dans la gestion du port. J'ai vu lifting naître en 1972. Donc, je suis historienne, mais je me rappelle de la date, en tout cas, je suis sûre. Je travaillais au lycée de Gennevilliers. Et le proviseur a créé cette petite unité de formation à la logistique d'emport avec les dockers. Et maintenant, c'est une grande école, c'est énorme. Je vais dans Paris, je vois lifting partout. Donc, avec des ingénieurs et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas de travaux mondiaux dessus?
Je n'en connais pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas.
D'accord. Voilà. Merci.
Comment se présente la concurrence entre les sites et donc les syndicats à un niveau international?
Alors, là, juste en deux mots, si c'est possible. Au niveau international, l'organisation qui domine nettement, c'est la Fédération internationale des travailleurs des transports, et il n'est pas inintéressant, qui est la principale fédération internationale ouvrière, syndicale. Et il n'est pas inintéressant de rappeler qu'elle a été créée conjointement par les marins et les dockers, qui en ont été les piliers. Alors, ils dominent très nettement Néanmoins, le particularisme Docker fait que cette organisation est aujourd'hui concurrencée chez les seuls Docker par le Conseil international des Docker. Alors, c'est une émanation complexe pour une bonne part des orphelins de la Fédération syndicale mondiale, hein, mais à laquelle se sont ralliées d'autres organisations. Et la concurrence entre ports ne recoupe pas là les adhésions, soit à l'ITF, soit au CDIC. Mais je suis obligé de faire vite. Et juste un point, en 2003 et 2006, les deux organisations ont travaillé de conserve pour faire échouer à deux reprises un projet de directive qui tendait à libéraliser complètement, je vais vite, la manutention dans les ports en Europe. Je crois que c'est, les Docker sont les seuls, toute affiliation confondue en Europe, à avoir obtenu du Parlement européen qu'il repousse un projet de directive de libéralisation. Ça, la dernière fois en 2006.
Oui, alors, ce sera la dernière sans doute. C'est une boutade, mais derrière la boutade, c'est pour rebondir à une allusion que tu as faite. Comment dit-on Docker au féminin ? Tu as dit qu'il fallait revenir sur les femmes Docker, mais...
On ne le dit pas en France, car il y a eu des femmes qui ont travaillé à la manutention dans les ports. Alors, mais c'était les orangères, c'était des femmes employées à recoudre les sacs à l'époque où on coltinait avec les sacs sur les épaules. Cette profession a disparu et les femmes ont disparu. Les seules qui restaient, c'était les femmes affectées au déchargement des navires de pêche. Elles ont obtenu la carte de docker professionnel dans les années 80 pour une dizaine d'années, puisque à partir de 92, ça a cessé. Pour le moment, en France, je ne pense pas qu'il y ait. Alors, ailleurs, à l'étranger, il en existe, mais ça n'est pas venu sans mal. Je me souviens du témoignage d'une femme docker de la côte ouest des États-Unis, un des rares syndicats d'obédience communiste qui est survécu au maccartisme aux États-Unis et qui contrôle toujours la côte ouest des États-Unis. Je referme la parenthèse. Donc là, il s'est ouvert aux femmes, mais alors, il a fallu vaincre des épreuves, une des épreuves censées vérifier à l'époque des portiques, hein, si les femmes étaient aptes, consistait à leur faire parcourir 100 mètres avec un sac de 120 kilos. Ce que, dans les ports, personne ne faisait. Bon, cette épreuve a été abolie, mais voilà, ça n'est pas venu tout seul. Donc, en France, on ne le dit pas au féminin.
Bon, il y a encore deux petites questions. Moi, j'en avais une par rapport à ce que vous avez beaucoup insisté dans l'intervention sur l'idée que les dockers fonctionnaient vraiment sur l'idée du port et du site. Et la question que je me posais, c'est quand on voit, par exemple, au niveau de la CGT, ça fait partie de leur souhait, c'est de développer des logiques de sites, par exemple, en centre commercial, ne plus être sur des enseignes, mais sur des sites, et la difficulté, voire même souvent l'échec à ça. Et je me demandais si vous aviez des hypothèses sur pourquoi ça a semblé marcher du côté des dockers. Comment ils ont réussi à agréger
mais parce que... Le problème qui s'est posé au syndicalisme docker a été de surmonter tous les particularismes qui les mettaient en concurrence à l'embauche. Donc ils ont commencé par fermer la profession. Donc ça, c'est la carte syndicale, puis la carte professionnelle. Et une fois qu'ils ont obtenu ça, ils ont obtenu des garanties qui liait qui rendait possible l'intermittence sans la précarité. Et alors là, j'ouvre une parenthèse. Ce qui est curieux, c'est que cette question-là de l'intermittence est revenue en débat dans les années 90 et aujourd'hui à travers le problème du spectacle, alors que les dockers ont été les premiers, à travers le syndicalisme, à travailler sur cette question-là. Mais ils en sont pour une part responsables, parce que la fermeture de la profession n'est pas simplement qu'une fermeture, je dirais, à l'embauche. Elle implique aussi d'autres choses. Ils n'ont pas beaucoup communiqué leur savoir-faire, sauf au cas des nettoyeurs. Alors, je sais que c'est venu ce matin. Malheureusement, je ne pouvais pas y être. Mais il n'est pas indifférent de noter que cette profession, non pas récente, mais malgré tout, qu'il l'est d'une certaine façon, avec une très grande flexibilité, c'est les dockers les premiers qui, de fait, ont accepté de l'accueillir dans leur fédération et de l'aider à partir du savoir-faire acquis dans la maîtrise de l'intermittence. Alors, ça a fonctionné plus ou moins, je ne sais pas ce qui s'est dit ce matin, donc je n'ouvrirai pas à cela. Et donc, pour revenir sur cette question de site, en quelque sorte, ils ont une logique de développement par auréole. Et c'est vrai que dans les années 70, ils ont eu ces projets un peu fous, quand même, hein, qui consistaient à étendre l'air pour, comme le disait le syndicaliste de Docker, tenir le port. Alors, ils n'ont pas complètement obtenu, mais quand même, ils ont largement. Et je dirais d'une certaine façon, les transformations et les réformes qui se sont produites, qui étaient faites pour les liquider, hein, en tant qu'organisation syndicale, vont dans le sens contraire. Autrefois, Docker et Grutier relevaient de deux systèmes différents. Les Grutiers étaient des ouvriers du port autonome, avec un statut particulier, les dockers relevaient des entreprises de manutention. Et comme on a fait des groutiers, des ouvriers normaux, eh bien, cette différence est en train de fondre. Mais voilà, désolé d'avoir débordé.
Ben merci. Donc on reprend avec...